Midi 13h, à votre santé.
À votre santé.
Philippe Robichon sur Beurre FM.
AVS, à votre santé, et l'amour, c'est la santé également. Bonjour Nadia.
Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous.
Alors Nadia, c'est Nadia El Bouga, sage-femme, sexologue.
Propriétaire d'un poney rose.
Qu'est-ce que je fais avec vous?
Rien.
Rien.
J'ai aussi un chameau bleu avant.
C'est pas un truc de fille, ça, le poney rose.
Non, j'ai un chameau bleu, je vous ai dit.
C'est Barbie. Ah, vous avez aussi un chameau bleu.
Voilà.
Il est garé en bas, c'est ça?
C'est ça, exactement.
Attention, il pleut, hein?
Oui.
Il va se délaver. Erika est avec nous.
Bonjour.
Bienvenue.
Oui, bonjour Nadia.
Alors, vous avez écrit un livre, Erika, mais alors vous appeliez Agathe à l'époque.
C'est mon deuxième prénom.
Je le dis ou pas?
J'adore mon deuxième prénom, j'adore Agathe.
Agathe.
C'est joli, oui.
Très joli. Agathe Zahra, Confession Moukabala ou les Confessions des musulmanes du siècle, édition Les Chrysalides.
C'est ma maison d'édition que j'ai montée.
Voilà. Et on en fera gagner un parce qu'il est introuvable, votre livre.
Parce qu'avec
Nadia, on voulait le lire et on n'a pas réussi à en trouver. Et vous
rupture,
nous en avez apporté.
Rupture de ventre, ouais.
Bien.
Il a bien fonctionné.
Alors, Nadia, vous avez décidé d'intituler cette émission Raison ou cœur, comment choisir son ou sa partenaire. Moi, je croyais que c'était un coup de foudre quand vous voyez tout ça. J'étais naïf. J'ai cru que moi, les mariages, c'était une histoire de coup de foudre. En fait, on savait qu'on s'aimait, on se mariait. Vrai ou faux?
En fait, la question, c'est choisit-on réellement notre partenaire? Parce qu'on sait que dans la rencontre amoureuse, notamment. En tout cas, la rencontre qui peut générer une vie potentielle avec un partenaire ou une partenaire implique différents niveaux de notre être. C'est-à-dire qu'il y a une part consciente qui est celle à laquelle on a accès directement, ou quand on est face à une personne, on peut d'emblée dire de façon rationnelle si oui ou non on va aller plus loin. Et puis ensuite, on a d'autres actions qui sont un petit peu plus enfouis, d'autres phénomènes plus enfouis dans notre préconscient et inconscient qui entrent en ligne de compte et qui font que on ira plutôt plus vers telle personne que telle autre. Et d'ailleurs, il y a des phrases du type « je sais pas, lui je le sens bien » ou « elle je la sens mieux ». Donc c'est plutôt de l'ordre de l'émotionnel, des sensations et de quelque chose qui probablement va aller convoquer notre histoire personnelle, notre histoire familiale, notre éducation, notre milieu social.
Quand je vous écoute, j'ai l'impression qu'en fait, c'est une étude de marché qu'il faut faire pour se marier aujourd'hui.
Moi, je le prends dans l'autre sens, Nadia. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, les jeunes filles, pour trouver la personne qu'elles veulent, c'est plutôt, en gros, qu'est-ce que j'attends de mon mariage? Est-ce que je veux le confort, un super appartement à Trocadéro, ou est-ce que je veux être épanouie? Est-ce que je veux un mariage romantique, avoir des beaux voyages? Est-ce que je veux avoir plein d'enfants? Est-ce que je veux... Et par rapport à ça, elles vont choisir souvent leur mari, je trouve. Et mais en même temps, ces choix-là sont, comme tu dis, ça revient à ce que tu dis, sont conditionnés aussi par un vécu. Mais souvent, moi j'ai envie de dire à ces filles-là, si tu veux avoir un appartement au Trocadéro, oui, trouve-toi un mec qui a de l'argent, voilà, tout simplement. Et ça, le choix. Mais après, faut assumer. C'est ça le problème.
Ouais, mais enfin, si on part du principe que l'amour dure 3 ans, autant prendre l'appart. Hein.
Ah, moi, je prends pas ce parti-là que l'amour dure 3 ans, sinon ça, c'est fini pour moi.
C'est Monsieur Nadia qui m'a dit ça la dernière
passion,
fois.
La passion, j'ai jamais dit l'amour.
On a dit l'amour, ça dure 3 ans.
Moi, j'ai dit la passion dure 3 ans. C'est pas la même chose, Philippe. La passion dure 3 ans. C'est-à-dire cette réaction biochimique dans le corps qui nous fait sentir voler des ailes, avoir des papillons à l'intérieur, et puis on pourrait quitter famille, enfants, et tout ce qui s'ensuit pour aller rejoindre son bien-aimé ou sa bien-aimée, c'est la passion amoureuse. En revanche, le véritable amour, l'amour vrai, c'est quelque chose qui n'est pas dénué de raison. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose de plus profond qui s'installe, il y a une notion d'engagement, il y a une notion de construction à deux. Donc on n'est pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus ces sensations un peu de... La personne n'est plus émoustillée comme dans les débuts, mais en revanche, il y a quelque chose de plus ancré
dans la réalité.
Exactement. Ouais. C'est-à-dire que on ne voit plus l'autre que dans son idéal, dans l'idéal qu'on a de la personne. On la voit dans sa réalité, mais cette réalité, on compose avec. Donc c'est ça la différence. Par contre, pour l'exemple que tu donnes, Erika, effectivement, on peut donner l'exemple également du sexe opposé, hein, c'est-à-dire des hommes qui font le choix d'avoir une poupée Barbie à leur côté, et potentiellement voir les options à côté, si elle peut être aussi la mère de leurs enfants. Donc ça marche également dans l'autre sens. Maintenant, moi, sur le terrain, je me rends compte que cliniquement, tout ça, en fait, ça reste effectivement des causes externes, mais on reviendra toujours à la base. D'ailleurs, on voit en consultation, il y a un biais de sélection parce que moi, je vois que les personnes qui ont des difficultés, mais on voit que si le choix ne s'est basé que sur le statut social ou sur des éléments matériels
ou physiques,
il va y avoir des dysfonctionnements sexuels.
Et puis, on est dans une génération la structure familiale aussi, elle est moins simple. Enfin, j'aime pas le mot complexe parce qu'en fait, c'est pas forcément complexe, mais elle est différente d'avant. Aujourd'hui, beaucoup de gens qui veulent se marier, souvent ont déjà eu des enfants avant, étant mariés ou pas d'ailleurs. Hein. Ils ont connu des femmes ou des hommes avant, etc. Ils ont connu des relations longues. Ils ont vécu avec des hommes ou eux ont vécu avec des femmes. Donc, ils viennent pas avec la même innocence dans le mariage. On n'est pas du tout avec la même mentalité. Donc, forcément, je pense que ce dont tu parles, le fait de venir avec des pieds ancrés dans la réalité, ils l'ont plus que peut-être d'autres personnes, que d'autres, la génération de nos parents ou la génération de nos grands-parents, et ils calculent plus. Donc oui, on est moins dans le romantisme, dans le flash, le coup de cœur dont parlait Philippe.
Moi,
j'ai toujours dit, je suis une éternelle romantique. Vraiment, je suis une romantique. On pourra pas me l'enlever.
J'ai l'impression que le romantisme, c'est plus du tout une valeur d'aujourd'hui.
Mais en fait, faut se battre pour le garder. Je crois qu'il faut vraiment qu'on lutte pour rester romantique. Ouais. Oui. Je sais pas ce que t'en penses, Nadia. La réalité, elle est...
Oui, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais ce qui peut expliquer justement le fait que les personnes qui ont déjà du bagage, du vécu conjugal ou amoureux, fait qu'à un moment donné, effectivement, ils pensent avoir fait le tour de la question. Mmh. Et à un moment donné, ils arrivent, et surtout quand on avance en âge, ils arrivent à un stade où ils se disent, non, je dirais pas blasé, non. Je dirais que ce sont des personnes qui se disent, bon, maintenant, j'aimerais construire quelque chose pour finalement me parfaire.
Ouais.
Ça les renvoie à eux, en fait. Ils ont vraiment plus conscience que la personne qui sera à mes côtés sera réellement mon compagnon ou ma compagnonne. On va vraiment avancer
à l'essentiel. Ils recherchent
plus
à l'essentiel.
Exactement. Ça ne veut pas dire qu'ils ne cherchent pas l'amour.
Mais pour moi, c'est complètement ensemble. C'est-à-dire que effectivement, et je peux en parler, quand on a connu des échecs de mariage. Effectivement, on se dit. Moi, je me rappelle que quand je voulais me marier pour la troisième fois, on m'a dit bon, écoute, sois pas difficile, prends ci, prends ça, va.
Prends celui qui va te prendre comme
voilà,
tu es.
Voilà, exactement. Non, prends celui qui te prendra tout court, qui voudra de toi, etc. Mais moi, la romantique, j'ai dit non, moi, je veux. Mes critères restent inchangés. Je crois à l'amour. Je veux qu'il y ait le truc qui me fasse des papillons dans le ventre. Je veux être amoureuse. Et j'ai droit parce qu'en tant que femme, j'ai droit. Et c'est pas parce que j'ai six enfants et que j'ai déjà été mariée deux fois que j'aurais pas le droit de retomber amoureuse, non? Mmh. Et ce qui est triste.
Ça simplifie pas les choses, hein.
Non, mais j'y crois. Et je crois que quand on y croit, ça arrive. Et la preuve, c'est que ça arrive. Mmh. Et le problème, c'est que les femmes se désespèrent. Je peux parler des femmes. Parce que les hommes, ils ont, malheureusement, sur l'échiquier, c'est eux qui ont plus de chance que nous. Eux, ils ont plus de choix de pouvoir se recaser rapidement en France, c'est la réalité. Mais les femmes ont tendance à croire que non, elles se sous-valorisent. Moi, je le vois en atelier qu'on fait avec Sabrina de l'agence Abelny, qu'on organise. Donc, on voit des femmes qui n'ont jamais été mariées, qui ont déjà été mariées, qui veulent refaire leur vie. Et souvent, celles qui ont déjà été mariées, qui ont des enfants, se se dévalorise énormément. Je pense que Nadia, tu dois le voir toi aussi en cabinet.
Oui, oui. Et mais
c'est
tu,
horrible.
Tu dis quelque chose qui est extrêmement important et très intéressant, Erika. C'est effectivement, en prenant ton exemple personnel, il y a quelque chose qui se dégage. Hein. C'est la certitude que tu as.
Bien sûr, mais dans, la confiance en soi, je pense, c'est très important.
Dans ton potentiel à aimer
exactement.
Et à être aimé.
Et le potentiel
qu'on a. C'est-à-dire que tu t'estimes
aimable. Je me considère... je me rappelle quand j'ai rencontré mon mari avec mon frère pour la première fois, enfin pour la seconde fois. C'était mon frère est commercial pour information et mon mari n'avait pas d'enfant, etc. Donc pour les gens c'était assez surprenant qu'il puisse s'intéresser à une femme qui a déjà été mariée plusieurs fois, qui a ses enfants, etc. Et donc il a dit à mon mari d'aujourd'hui donc est-ce que tu crois que tu vaux ma sœur parce que ma sœur c'est une fusée, elle est intelligente, elle a fait des études, elle a fait voilà son métier, etc. C'est quelqu'un qui te fera rire, qui te fera évoluer, etc. Et il m'a dit, mon mari, plus tard, qu'en fait la situation était retournée de lui penser venir en terrain conquis et devoir choisir est-ce que je la veux ou je la veux pas. Finalement on l'a mis dans une position où il se disait mais est-ce que vraiment je suis à la hauteur pour elle, voilà. Et tout ça pour dire que les femmes se dévalorisent, donc forcément quand elles se présentent sur le marché, les hommes ont le pouvoir. Ils se disent. Oui.
Les hommes aussi hein, se dévalorisent. Par contre, ce qu'on peut retrouver, effectivement, c'est les hommes qui, justement, parce qu'ils ont une mésestime d'eux-mêmes, vont gonfler du torse ou vont gonfler, entre guillemets, leur CV, si je peux dire ça comme ça. Et finalement, ça cache une.
Je dis qu'il va nous tomber dessus, je le sens.
Un manque, non mais réellement ça dénote un manque.
Je suis pas là, je vous écoute, je vous observe, j'affûte mes punchlines.
Oui. Alors que effectivement chaque être est digne d'être aimé et d'aimer. Présentez-vous comme vous êtes. En revanche, là où il y a quand même un travail tout de même à faire, c'est que, et tu le dis justement, mais autrement, les gens savent ce qu'ils veulent. L'inverse, excusez-moi. Les gens savent ce qu'ils ne veulent pas, pardon, mais ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Donc, quand vous leur demandez, par exemple, leurs critères de choix, ils vont vous dire, à travers le prisme de leurs expériences passées, ah ouais, mais moi, je veux pas un homme comme ça ou une femme comme ci, avec un comportement comme ça ou comme ci, ou une attitude comme ça ou comme ci. Bon, bref. Et donc, du coup, ils ont du mal à définir ce qui finalement leur correspond à eux. Ils avancent à la négative et pas par la positive.
On en avait parlé dans une autre émission avec Philippe et Sabrina. Et oui, c'est tout à fait ça. Et c'est ce qu'on trouve aussi en atelier. C'est que beaucoup, quand je demande aux sœurs, je vais raconter l'anecdote. Quand on demande aux femmes quelles sont leurs trois qualités, généralement, elles vont m'en donner une. Et souvent, c'est une qui est pas. Et pourtant, j'ai affaire à des femmes qui sont souvent talentueuses, qui sont powerful, qui ont des super boulots, qui ont des super parcours, etc. Mais elles sont incapables de me donner une qualité. C'est incroyable. Et ça dénote vraiment que notre génération, on est des femmes qui n'avons pas confiance en nous. Et ça me surprend beaucoup. Et je ne comprends pas pourquoi. Je me pose toujours la question.
Alors, si je vous pose la question à vous, quelles sont vos qualités?
Moi, je pense que je
suis... Trois
qualités? Oh, mais que trois? Non, je rigole. je suis quelqu'un d'intelligente. Je suis une personne assez passionnée. Et je pense que je suis une personne attachante aussi. Si vous voulez.
Vous avez dit je pense à chaque fois.
Oui, je pense parce que après, c'est aux gens qui sont autour de moi de le confirmer. Mais...
Ah. C'est pas facile la question des qualités. Hein. C'est pas une question.
Trois qualités.
Moi, je pose des questions. Et j'écoute les réponses.
D'accord.
C'est pas un exercice facile.
Oui, c'est pas facile.
D'où la nécessité, justement.
On dit toujours qu'il faut le préparer.
Exactement.
Mais c'est surtout qu'il ne faut pas le préparer pour dire je vais en trouver trois. Non. Oui. Il faut vraiment le préparer pour trouver les vraies qualités qu'on a.
Oui, de pouvoir se poser avec soi-même, en fait, et de se dire. Et d'utiliser, hein, tu le dis justement, Erika, les expériences passées. Alors, pour les personnes qui sont, pour nos auditeurs et nos auditrices qui se disent ben moi, je n'ai pas d'expérience passée, ben, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, vous n'avez pas eu d'expérience. Peut-être amoureuse ou conjugale. En revanche, vous avez quand même des expériences familiales, amicales. Vous pouvez vous appuyer là-dessus pour pouvoir déterminer quelles sont vos qualités, quels sont vos défauts.
Bon, votre livre est un livre pratique, donc il y a des des exercices à faire. Donc ça vous aide déjà pour préparer sur des questions. Déjà, vous posez des questions aux auditeurs, on verra lesquelles tout à l'heure, justement, des questions qui peuvent les amener à se questionner pour mieux se connaître. Donc comment est-ce qu'on choisit son ou sa partenaire, raison ou cœur? C'est le sujet ce matin, 01 53 48 3000, si vous voulez rejoindre la conversation.
À votre santé. Reviens dans un instant sur Beurre FM. Midi 13h, à votre santé. À votre santé. Philippe Robichon sur Beurre FM.
Raison ou cœur, comment choisir son ou sa partenaire? On en parle avec Nadia Elbouga et Erika qui est avec nous. Erika, je rappelle que vous avez écrit « Moukabala » ou « Les confessions des musulmanes du siècle » aux éditions Les Chrysalides. Alors, la Moukabala, c'est quand même très codifié comme exercice.
Normalement, oui, c'est pour ça que j'ai mis « ou les confessions des musulmanes du siècle » parce qu'en vrai, ça se déroule jamais comme ça devrait, entre guillemets, se faire. C'est-à-dire que voilà, chacun fait un peu à sa sauce parce que chacun a besoin d'être à l'aise pour... rencontrer la bonne personne. C'est-à-dire que voir juste rencontrer une fille avec son papa dans la maison avec tous les yeux des cousins, des petits frères qui regardent, c'est pas forcément le cadre idéal pour sentir naître l'amour.
Mais ça là aussi, ça se prépare. Il faut préparer. Ouais. Donc finalement, tout le monde est mariable, dites-vous, et que être mariable, ça veut pas dire qu'on ajuste à toutes les cases.
C'est ça. Être mariable, c'est se connaître, en fait.
Alors comment on apprend à se connaître?
Bah, j'ai mis un petit, justement, moi j'aime bien, comme vous, poser des questions, et surtout le plus important, c'est de se poser les questions. Et on se pose pas les questions. Du moment où une femme se dit, est-ce que je suis mariable, et ben voilà, elle a déjà commencé à faire son travail pour choisir son futur. C'est-à-dire qu'est-ce que je peux apporter à un homme, et qu'est-ce que je peux lui, quelle est ma valeur ajoutée, en fait. En gros, c'est ça. Et c'est hyper important pour savoir, pour se définir, et déjà pour soi-même, et ensuite pour pas être juste la celle qui va faire la popote et qui va changer les couches. C'est mon avis.
Mais quand on dit on apprend à se connaître, parce que tout le monde pense bien se connaître.
Exactement, on pense. Je ne sais même pas si elle se pose la question. Souvent, l'image du mariage, elle a été instaurée depuis petite, et souvent, malheureusement, c'est une fois mariée qu'on se dit bah mince. C'est pas forcément ça, c'est pas forcément dans ça que je pensais m'inscrire ou je pensais m'épanouir, je le voyais pas comme ça, etc. Donc oui, il faut se poser la question pour savoir en fait qu'est-ce qu'on attend du mariage, vraiment.
Et en partant, si la personne a du mal à se poser la question-là, elle peut partir d'une base qu'elle connaît, c'est les couples mariés autour d'elle, hein, en commençant par les parents. Oui. Est-ce que j'ai envie de recréer mon modèle parental, ou être complètement en antithèse de ce modèle, ou alors est-ce que j'ai des modèles de couples autour de moi qui m'inspirent, vers lesquels je peux aspirer, ou bien piocher dans ces différents types-là.
Mais plus profondément, Nadia, est-ce que tu ne crois pas qu'aussi il faut qu'elle demande à leur mère ou à leur tante ou à leur cousine mariée, est-ce que tu es heureuse dans ton mariage? Parce qu'on peut voir d'extérieur avoir une vision d'un archétype et se dire je ne crois pas que je correspondrais, mais c'est plus complexe. Est-ce que ma mère, elle correspond peut-être à ça et elle est heureuse comme ça? Est-ce que tu vois ce que je veux dire?
Oui, alors ce que tu soulèves, c'est très intéressant parce qu'il y a des sociologues suisses qui ont justement fait une étude à grande échelle pour déterminer 5 types de couples. D'accord. 5 types sociologiques de couples.
D'accord.
Et par exemple, l'exemple que tu cites de la bonne femme qui veut pas forcément faire la popote et changer les couches des enfants, ben il y en a certaines, elles veulent faire ça.
Mais j'en fais partie?
Oui.
Exactement.
Alors, justement, ouais. Oui, on peut pas
mettre tout le monde dans le même sac, c'est ça.
Exactement. Aucun modèle, même si ça ne correspond pas à nous, ça ne veut pas dire que ça correspondra pas à quelqu'un d'autre. Et ça, par exemple, dans les types qu'ils ont décrits, c'est le type bastion. C'est-à-dire, on a un couple, c'est le couple dit traditionnel que l'on connaît, où la femme, elle est ministre des Affaires intérieures, où elle s'occupe du foyer, et le compagnon, c'est le ministre des Affaires étrangères, et il travaille. Donc, dans ce type de couple-là, la femme ne travaille pas, elle est à la maison, et il y a une répartition des tâches qui est très définie. Et il y a des gens qui correspondent à ce type-là. Donc, c'est-à-dire que pour eux.
Donc, bastion. Donc, si vous voulez.
C'est la guerre.
Non, au contraire, le bastion, non, oui. c'est traditionnel. Quoi.
C'est ça, tout ouais. à fait. Ouais. Et par, à contrario, vous avez le type, par exemple, association, où là, on va dire que c'est un couple un petit peu plus mondain, où monsieur et madame sont actifs, il y a une répartition égalitaire des tâches à la maison, donc tous les deux sont à l'extérieur et à l'intérieur, ils aiment beaucoup sortir, ils aiment s'instruire, ils sont au contact de la société, et la caractéristique de ce couple-là, c'est d'être autonome, et l'individualité prime. C'est-à-dire que il n'y aura pas de concession. C'est-à-dire que si, à un moment donné, dans mon ascension professionnelle, mon couple pose problème ou mon compagnon pose problème,
D'accord.
Donc c'est la caractéristique de ce couple-là. D'accord. Donc à partir du moment où les deux sont d'accord, ils disent OK. Alors quand je dis il n'y a pas de concession, il y a forcément quelques concessions dans le couple, mais en tout cas sur leur évolution individuelle, il n'y aura pas de concession de fait. Et c'est là où ça clashera si on a un qui demande à l'autre de faire un sacrifice. Mm-hmm. Un exemple, l'un souhaite s'expatrier parce que il a la possibilité, l'opportunité exactement de croître au niveau de sa carrière. Eh bien, si ça met en péril le développement professionnel de sa compagne ou du compagnon, eh bien non. Le couple risque de clasher. Donc ça, c'est un modèle. Alors, ce qui est intéressant, c'est lorsqu'on rencontre, ou lorsqu'elle mourt Kabbalah, par exemple, c'est de pouvoir identifier à quel type de couple j'appartiens. Si je suis plus traditionnelle, si je suis plus association, est-ce que je suis plus couple parallèle? Alors, c'est un nouveau couple, style de couple qu'on l'envoie de plus en plus. Okay. C'est le style de couple de... comment elle s'appelle la météorologue qui passe sur la Lune? C'est pas Evelyne Delia, c'est l'autre.
Bon, j'ai pas
c'est
la
un
télé,
auditeur
moi.
Connu, parce que ça avait été médiatisé, d'accord, en fait, à l'époque. C'est Catherine Laborde, voilà, d'accord, ça revient.
Elle y est plus.
C'est des couples, c'est des couples, en fait, qui vivent chacun dans son appart.
De plus en plus, ça.
Oui, c'est pour ça que je dis ça, c'est plutôt un couple que l'on voit.
On vit chacun chez soi.
Alors, c'est des couples qui peuvent avoir une sexualité explosive. En revanche, au niveau de l'affectivité,
c'est pas terrible.
On passe la route. D'accord. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'attachement réel. Dès qu'il y a une difficulté dans ce type de couple-là, on passe à autre chose.
Je vais rebondir sur ce qu'elle disait.
Bon, on va rebondir tout à l'heure. Je vous propose, mesdames, d'accueillir Hakim, qui nous appelle au 01 53 48 3000. Bonjour et bienvenue, Hakim.
Bonjour à vous, bonjour à vos invités.
Alors, Hakim.
Je voulais juste intervenir par rapport à ce qu'une de vos intervenantes, je ne sais plus laquelle, a dit, que l'homme travaillait et que la femme restait à la maison.
Oui.
Moi, je parle de mon cas personnel. Je suis marié depuis 10 ans et la passion est toujours depuis 10 ans. Donc, la passion qui dure que 3 ans, je ne suis pas d'accord.
Tout augmente.
Tout le monde, franchement, tout le jour passe avec les enfants qui arrivent. On a 2 enfants. Et la passion est encore là, est vraiment encore là. Et que je rentre à chaque fois à la maison et que je suis heureux de la voir, etc. Mais je veux dire que mon épouse, avant de la connaître, elle travaillait.
Ouais.
On a fait le choix ensemble. On a fait le choix ensemble qu'elle reste à la maison. Et franchement, elle s'y plaît parce qu'elle a ses activités, elle voit ses copines, elle s'occupe de son enfant. Elle n'est pas que ministre de l'Intérieur, elle est aussi ministre de l'Extérieur. Hein. On prend des choix d'ensemble. Je ne suis pas d'accord, c'est juste pour ça. En disant ça, ça stigmatise la femme. Quoi. Celle qui reste à la maison, elle s'occupe de son four, derrière son four, elle s'occupe des repas et puis... c'est un peu le cas, mais je suis pas d'accord.
Salam alaikum, Hakim. Vous savez, le ministre de l'Intérieur, c'est celui qui a le plus de pouvoir, ceci dit en passant.
Ouais.
Attention.
Je crois que c'est le ministre des Finances. Enfin bon, après, ça se dit.
Non, en fait, c'est ce qu'on reprenait, c'est dans le sens où l'exemple que j'ai donné, il n'est pas péjoratif, c'est-à-dire que ces positions, c'était juste pour imager, mais ces positions sont assumées par les deux membres du couple, et lorsqu'on questionne l'homme et la femme, parce qu'il serait intéressant de questionner votre épouse justement hein, sur ce qu'elle ressent dans cette situation, est-ce qu'elle aussi elle est dans la passion ou pas, c'est intéressant d'avoir son retour à elle également, parce que... Parce que ce qui est intéressant, c'est quand les couples arrivent à se déterminer dans un style. Là, il n'y a généralement pas de problème. Quand ça fonctionne comme vous le décrivez, a priori, ça fonctionne bien pour vous, donc c'est très bien. En revanche, là où il peut y avoir un dysfonctionnement par la suite, c'est quand, au moment de la rencontre, on ne sait pas à quel type on appartient et on s'engage avec une personne et finalement on se rend compte que moi je suis type donc c'est un moi bien sûr impersonnel, hein, je parle pas de moi personnellement, je suis plutôt un type parallèle et finalement ma compagne ou mon compagnon est un type bastion. Bah là ça risque de clasher parce qu'on n'aura pas le même fonctionnement logistique, sociologique et familial et l'un et l'autre. Donc là ça risque de poser problème une fois que le côté passionnel sera passé.
Ah, au bout de 10 ans, bah, en tout cas, ça me fait plaisir à entendre, hein, Hakim.
Moi, sérieux, moi, je vous dis sincèrement, mon épouse, quand je l'ai connue, elle était biologiste. Moi, je suis géomètre. Elle s'est mariée. Elle travaillait. Et honnêtement, quand elle travaillait, elle était malheureuse. Et maintenant qu'elle arrête, parce que je lui pose toujours les questions, il y a toujours une remise en question. Franchement, je la vois plus épanouie maintenant que quand elle faisait 17 ans. Après, peut-être que je me trompe, mais...
C'est un exemple. Ouais. Et en tout cas, merci de partager votre exemple, parce que chacun a son propre modèle. Hein.
Mais ce dont vous parlez, Hakim, c'est pas de la passion. Hein. Vous parlez d'amour. Hein. Là, c'est.
Non, l'amour, c'est pas pareil. L'amour, non. Moi, personnellement, je fais une distinction entre l'amour et la passion, parce que l'amour, je me connais. Je lui déclare pas tant que ça l'amour, mais je sais que je l'aime. À un point, je vous raconte pas. Mais la passion, c'est quand. C'est le regard, c'est pas besoin. Elle prend des décisions, mais sans me demander. Mais je sais qu'elle le sait déjà que ce serait la bonne décision, mais je sais pas.
Est-ce qu'elle écoute? Parce que là, c'est une sacrée déclaration que vous lui faites en direct, hein, sur Beurre FM.
À cette heure-ci, je pense pas. Elle a que les petits rentrent de l'école.
Bon, voilà. Mais...
Non, mais c'est ça. C'est... Mais je vous donne un exemple. Hein. Un exemple. On est avec des amis, mais un regard, mais ça. Pas besoin de 10 000 mots, quoi. C'est un seul regard, mais je pense pas que ce soit l'amour. Je pense que ça reste la passion. J'espère, hein.
Est-ce que vous avez les papillons dans le ventre, comme disait Erika?
Ah non, là, en ce moment, avec le ramadan, c'est pas les papillons.
Ah oui, d'accord. Bim. En tout cas, merci d'avoir partagé tout ça avec nous, Hakim.
Restez comme vous êtes.
Merci, allez, à bientôt. Au revoir, Hakim. Bon, vous pouvez réagir, vous êtes nombreux à vouloir réagir d'ailleurs sur le couple, hein, comment on choisit son partenaire. 01 53 48 3000, 01 53 48 3000.
À votre santé. Reviens dans un instant sur Beurre FM. Midi 13h, à votre santé. À votre santé. Philippe Robichon sur Beurre FM.
Raison ou cœur, comment choisir son ou sa partenaire avec Erika et Nadia Elbouga. Vous êtes nombreux à vouloir intervenir. On dit hors antenne qu'il ne faut pas mettre les gens dans les cases, déjà, ça c'est important. Ah, et qu'un couple, ça évolue au fil du temps. Hein. Alors, c'est Samira de Créteil qui est la première. Bienvenue, Samira.
Bonjour,
Samira.
Vous allez bien?
Ça va bien.
Je suis très contente que cette émission... c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur quand même. Je trouve que c'est un bon thème plutôt. Vous m'entendez?
Oui. Oui. Alors, comment on choisit son partenaire ou sa partenaire?
Quand on est jeune, on croit un petit peu au prince charmant. Et malheureusement, c'est complètement faux, hein, parce qu'après, au fil du temps, on s'aperçoit qu'il faut. Il y a plein de choses. Hein, pour être avec le bon partenaire, il y a déjà eu un partage dès le début. Dès le début, il y a un partage de tout, de chacun de sa culture, une confiance, la liberté. Liberté, c'est pas entre guillemets, c'est pas la liberté que nous, notre communauté, on entend, la liberté de sortir. Non. C'est quand on est, un couple, normalement, pour qu'il soit, que tous les deux soient épanouis, faut qu'il laisse l'autre aussi sortir un petit peu de son contexte familial. Des enfants, etc. De temps en temps, qu'ils puissent sortir avec des amis extérieurs de façon à pouvoir revenir dans une autre posture, mieux, je veux dire. Vous voyez ce que je veux dire? Après, moi, j'ai toujours dit le béaba, enfin, le truc, c'est avancer, motiver, aider et conseiller. Voilà, c'est un petit peu...
Ah, dis donc, c'est un slogan, hein.
Non, mais c'est vrai, c'est ça.
Avancer, aider...
avancer, motiver, aider et conseiller. Ouais. C'est les... c'est ce que je trouve que c'est, ça représente pour moi la relation aujourd'hui. Aujourd'hui, j'entends beaucoup de couples. Moi, je suis quand même, bon, j'ai été deux fois mariée. Je peux vous dire que aujourd'hui, je vois beaucoup, beaucoup, beaucoup d'hommes frustrés, mal-être, qui veulent pas, enfin, qui sont à la recherche de n'importe quoi. Le fait de, parce qu'ils savent pas du tout, enfin, ils veulent pas quitter leur épouse parce que c'est la famille, les enfants, ils veulent pas, mais ils sont complètement out. Ils sont plus du tout dans le, il y a plus rien dans leur couple. Donc ça, c'est grave de pas pouvoir communiquer. Bon, après, ces gens-là, nous, on n'est pas non plus les ramasses, comme elle disait la dame, là, qui a 5 ou 6 enfants, je sais plus, quoi.
6.
Moi, je veux pas me brader, quoi. Je veux pas me brader.
C'est Erika qui en a 6.
Voilà, c'est ça. Excusez-moi, désolé. Je veux pas du tout me brader parce que je me connais, je sais ce que je vaux, j'ai de la valeur ajoutée et je sais ce que je peux donner. Maintenant, avoir quelqu'un pour avoir quelqu'un, non, je préfère être seule.
Ouais, mais vous savez ce que vous voulez en fait, Samira, c'est ça.
Complètement, parce qu'aujourd'hui, maintenant, il y a vraiment, bon, je vais pas généraliser, mais aujourd'hui, à partir du moment que vous êtes une femme qui va, enfin, séparée toute seule et que vous vivez votre vie indépendante, etc., vous sortez comme vous voulez, etc., ça nous regarde nous. C'est notre épanouissement. Il y a des gens, des femmes qui sont au foyer, qui vont peut-être critiquer. Ah bah oui, elle aime bien la liberté, tatata. Je m'en fiche complètement parce qu'elle ne me donne pas à manger.
Ouais.
C'est moi qui vis, c'est moi qui me gère, autogère dans ma maison. Il n'y a personne qui me donne quoi que ce soit. Je fais ce que je veux.
Alors, Samira, c'est important ce que vous dites. Il y a beaucoup, beaucoup d'appels. Il y a beaucoup de réactions de personnes qui veulent réagir. Je veux qu'on accueille Nina qui nous appelle de Toulon. Merci, Samira. Alors, Nina... Bienvenue.
Oui, bonjour Philippe. Bonjour tout le monde.
Bonjour Nina.
Bon, moi, je voulais réagir un peu par rapport au couple parallèle et tout ça. J'ai 52 ans.
Oui.
Donc, c'est vrai qu'au de nos jours, la vision du couple, disons, n'est plus la même, hein, forcément. Hein. Et de plus en plus de gens, ils veulent vivre chacun chez soi. Et je ne vois pas la place de l'amour. On a tout banalisé, en fait. Du coup, il n'y a plus cette vision, en fait, vraiment du couple, quoi.
Quand on vit chacun ses soi, Nina, est-ce qu'on fait un couple, enfin...
Non, pas du tout. Pour moi, ce n'est pas un couple. Ben pour oui, moi, ce n'est pas un couple. Après, je ne sais pas. Mais je pense, je demanderais bien l'avis à aux experts.
Voilà. Erika, Nadia, quand on vit chacun chez soi, est-ce qu'on peut appeler ça un couple?
Moi, je suis dans l'optique que chacun trouve son équilibre comme il veut, en fait. On a parlé tout à l'heure, effectivement, des cas. Je pense que ce qui vous a heurté, c'est parce que vous avez vous-même des idées, une idée préconçue culturellement. C'est pas négatif, c'est pas péjoratif quand je dis ça. Hein. Vous avez un schéma familial qui existe déjà. Moi, personnellement, c'est vrai, je pourrais pas avoir, moi non plus, hein, comme vous, je conçois pas de vivre comme ça avec séparé de mon mari. Mais si certains trouvent cette façon de vivre comme ça, pourquoi pas? Au final,
respecte,
vous voyez
hein. Je respecte, il n'y a aucun problème.
Voilà, c'est ça.
Moi, logiquement, quand on est avec quelqu'un, on a quand même des ambitions, on a des objectifs à atteindre,
oui,
on a des rêves, on a des choses à réaliser. La vie ne s'arrête pas là.
Après, c'est fiscalement que c'est un peu plus compliqué, mais sinon... sinon, ça peut être, ils peuvent avoir aussi des objectifs et voilà, une vision à long terme aussi, même s'ils ne vivent pas dans le même appartement.
Alors, effectivement, les exemples qu'on a cités, n'oubliez pas que c'est une étude sociologique, donc c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas un type qui a été inventé, c'est pas un type de couple qui a été inventé, c'est en fait des sociologues qui ont constaté, qui ont fait une étude et qui ont constaté en pourcentage, donc vraiment sur un grand nombre de couples, qui ont constaté qu'il y avait un type de couple comme ça. Ces gens-là, quand on les questionne, ils se disent être un couple. Alors après, on a des définitions, effectivement, de couple. Je crois que c'est Neuburger qui disait que le couple, la définition, on va dire, communément acceptée du couple, c'est lorsque deux individus vivent ensemble et qu'ils lavent leur linge sale ensemble. Alors, au sens propre et figuré, c'est quand même maintenant.
À partir d'un certain niveau de romantisme, ouais. On peut pas lutter, Nadia. Désolée.
Voilà. Donc, on voit bien que au jour d'aujourd'hui, c'est pas forcément la définition de certains couples. Et pourtant, ces personnes-là se disent bien ensemble, en couple. Que diriez-vous d'ailleurs des jeunes? Qui sont des jeunes qui sont ensemble et qui ne sont pas forcément encore installés et qu'ils vous disent hein, qu'ils sont en couple, même s'ils ne vivent pas sous le même domicile.
La question reste posée. Tiens, c'est Karim qui va répondre à la question. Karim qui nous appelle de Lyon. Bonjour, bienvenue, Karim. Karim. Alors, attendez, on a Karim.
Il est bouche bée, Karim.
Bah oui, ou alors il s'est mis sur muet. Voilà, attends, je comptais sur Karim pour répondre à notre question.
Je vais rebondir sur ce que dit Nadia en attendant.
Oui.
Sur le fait que, justement, par rapport à ces cases-là dont elle parlait, c'est très intéressant parce que ça montre bien, justement, aujourd'hui, comment différents couples peuvent vivre. Mais c'est vrai qu'on n'est pas forcément obligé de rentrer dans une seule case. On peut rentrer dans plusieurs. Par exemple, on veut nous faire croire souvent, je reprends la cause des femmes, qu'on doit être soit femme au foyer, soit femme sur le terrain professionnel, soit etc. etc. Moi, je sais que personnellement, j'ai vu très tôt quand j'ai vu un documentaire j'ai oublié son nom, c'est parti, ça va me revenir plus tard. Et en tout cas, il y a eu plusieurs femmes que j'ai vues, dont ma mère aussi, qui avait fait des études supérieures, qui avait un boulot et qui avait choisi d'avoir beaucoup d'enfants. Et moi, je me suis toujours dit, je me suis jamais posé la question que je pourrais faire, que je ne pourrais pas faire les deux. J'ai fait des études, j'ai travaillé comme prof, et j'avais dans ma tête c'était sûr, oui, que j'aurais au moins 5-6 enfants. Alors qu'on dit qu'il faut choisir.
Voilà, oui.
Voilà. Et j'ai pris ça comme un challenge. Oui. J'ai passé mes partiels enceinte de 9 mois et voilà. Mais il faut pas se limiter à ce que la société nous donne comme modèle et qui nous donne des limites à ce qu'on veut faire dans la vie. On peut s'épanouir et on peut choisir justement dans son couple à un moment de dire pendant telles années je vais m'occuper de mes enfants. Je vais reprendre mon activité plus tard, etc. Et je peux très bien faire les deux, ce qu'on appelle le nouveau terme mompreneur. Donc, oui. Reprendre son boulot.
Et ça se discute d'ailleurs lors de la rencontre, parce qu'il y a des profils de personnes qui sont sécurisées lorsque tout est figé, rien ne bouge, et ça les rassure d'avoir un couple qui est toujours le même, qui est standardisé durant toutes les années, et d'autres qui sont plus ouverts au changement, disant oui, là aujourd'hui je pense comme ça, mais effectivement on peut évoluer. Tu es chef d'entreprise,
c'est jamais statique.
Tu es salarié, et pourquoi pas arrêter de travailler ou changer, faire une reconversion professionnelle.
Voilà,
mais ça se discute justement au préalable.
Alors, Sonia est avec nous. Bonjour et bienvenue, Sonia.
Oui, bonjour. Écoutez,
bonjour, Sonia.
Alors, attendez, Sonia, on va vous écouter, mais enlevez le kit main libre, s'il vous plaît, Sonia, pour qu'on puisse vous entendre.
Je suis en Bluetooth, je suis en train de conduire, malheureusement, donc j'essaye de faire au mieux. Est-ce que ça va un peu mieux, là?
Ça va à peine un peu mieux. Alors, on vous écoute, Sonia.
Bon, bah, écoutez, dans un premier temps, je voulais vous remercier de m'avoir à l'antenne, vous féliciter pour tout ce que vous faites. Alors, tout à l'heure, j'ai entendu les petits coups de gueule de Mohamed ou de Karim, je ne sais plus.
De Karim, qui nous a...
Voilà. Par rapport aux petites annonces, je voulais dire que non. Il n'y a pas de petites annonces qui sont nulles ou anodines ou quoi que ce soit. Au contraire, ça peut aider toute la communauté, donc il faut continuer. Et puis, pour prendre part au débat, simplement dire qu'en fait, il n'y a pas de surhomme ou il n'y a pas de surfemme ou il n'y a pas de couple merveilleux en général. C'est un équilibre, une alchimie, je pense qu'il faut essayer de trouver. Et puis beaucoup, beaucoup, beaucoup de communication, parce qu'on a tous nos défauts. C'est vrai que moi, je suis maman de 2 enfants, mère de famille et épouse. Et c'est pas facile tous les jours. Il y a beaucoup de frustration parfois sur certaines choses, parce que malheureusement, en fait, c'est un problème de communication. Et on se rend compte, dès lors que l'on communique, ça peut aller beaucoup, beaucoup mieux. Donc ne pas décourager, ne pas penser qu'il y a l'homme absolu avec toutes ses qualités ou la femme absolue avec toutes ses qualités, parce que c'est pas vrai. C'est vraiment un équilibre, je pense, une chimie, il faut trouver une communication. Et puis ne pas avoir peur aussi des erreurs. C'est-à-dire de se rendre compte que peut-être et forcément, à certains moments, on a fait une erreur ou pas. Et puis aller de l'avant, quoi, tout simplement. Mais c'est vrai que j'entends, en fait, toutes ces femmes qui prennent des positions. Alors, celles qui sont seules prennent des positions en expliquant que ça leur vaut mieux comme ça. Celles qui sont accompagnées prennent des positions en expliquant que c'est mieux aussi comme ça. Mais en réalité, je pense que c'est vraiment propre à chacun. Donc, voilà, c'est simplement ça. Je voulais
un peu d'optimisme. Vous avez raison, Sonia. Merci pour votre intervention. Alors, Rika, vous voulez réagir?
Oui. Sonia a dit une chose qui est très importante. Quand on veut rentrer dans le mariage, il y a une chose qu'il faut se dire, c'est qu'il n'y a aucun homme parfait. Il y a une phrase que disait Erika Jung, une philosophe féministe, qui est dans son livre La peur de s'envoler, elle disait, l'homme parfait, on ne le trouve jamais, en fait, on le met au monde. La seule personne qui nous aimera toute notre vie, quelle que soit la personne qu'on est, qu'on soit grosse, maigre, refaite, pas refaite, etc., c'est son fils. Donc c'est éloquent, parce qu'il n'y a aucun homme qui nous aimera d'une façon... Ça, il faut l'enlever de nos têtes. Une fois qu'on l'a compris, on peut déjà passer à autre chose.
Oui, voilà. Et une fois qu'on a compris également que se mettre en couple, le préalable, c'est de se dire qu'on ne doit pas chercher à tout prix à changer l'autre,
ouais.
C'est déjà la bonne base. Parce qu'avant de pouvoir communiquer, alors vous avez totalement raison, il faut d'abord se dire que celui qu'on va changer ou celle qu'on va changer dans le couple, c'est nous-mêmes. Mais pas l'autre. D'où d'ailleurs l'importance des muqabalettes lorsqu'elles sont faites avec, on va dire, intelligence et que l'on puisse se questionner sur soi et sur ce que l'on veut soi-même.
Alors, qui se ressemble s'assemble ou les opposés s'attirent?
Alors, Nadia.
Alors, sociologiquement, c'est qui se ressemble s'assemble. C'est-à-dire qu'on voit que sur le terrain, en réalité, les gens qui sont ensemble, qui se mettent ensemble, c'est des gens qui ont...
Qui répondent les mêmes choses aux mêmes questions.
Qui ont, la plupart du temps, un niveau intellectuel plutôt similaire, niveau d'études aussi, enfin, classe sociale aussi similaire, qui ont des points culturels qui convergent. Donc ça, c'est une réalité sociologique. Hein. Après... les opposés peuvent aussi s'attirer, mais là, ce sera plus peut-être sur le plan émotionnel et sentimental. Donc, les deux sont vrais, mais sociologiquement, les gens qui matchent, pour utiliser un mot moderne, ce sont ceux qui sociologiquement se ressemblent et qui ont les mêmes valeurs.
Religieusement, en plus, oui, c'est un nom, ça s'appelle la kafahad, comme quoi ça prend... oui, même, on sait que dans notre religion, qu'il y a des sources fondées qui disent qu'effectivement il vaut mieux être issu de la même culture, etc., etc. Maintenant, ça c'est encore des... Je dis pas que c'est faux, hein. Évidemment, ça, moi je pense que c'est des aidants, ça aide. Mais il faut pas non plus se dire, parce que lui il est comme moi, c'est un Algérien, ou parce que lui il est comme moi, c'est un Marocain, ça a marché. Alors, regardez combien de personnes qui sont des natifs français et d'origine algérien ou bref du Maghreb ou d'Afrique noire, bref, et qui se marie avec quelqu'un de la même origine et qui est né dans son pays d'origine, ça matche pas, comme tu dis.
Et parfois même du même village.
Et du même village, et ça marche pas du tout, parce qu'en fait, ils n'ont rien à voir. Ils n'ont pas grandi avec les mêmes codes, avec les mêmes références culturelles, etc.
C'est pour ça d'ailleurs que les sociologues ils constatent que les gens qui matchent ensemble, mm-hmm. ce sont des gens qui sociologiquement se ressemblent.
Oui,
donc ça veut dire
pas
que on peut avoir un Français avec une Africaine du Nord ou du Sud, mm-hmm. ou une Asiatique, s'ils ont le même niveau d'instruction, s'ils ont le même niveau social. Mm-hmm. Donc c'est pas tant la culture là qui va poser problème. En revanche, s'ils sont de deux catégories sociales différentes, ça arrive. Bien sûr, il y a des exceptions, mais c'est pas la majorité des couples qui matchent.
Bien, le débat n'est pas terminé, donc on en reparlera. Merci Erika, merci Nadia d'avoir été avec nous.
Merci Philippe.
Ce soir, nous parlerons du Ramadan et des autres, et de justement ces nuits de Ramadan qui sont suffisamment et souvent brillantes. On en parlera entre 19h et 20h. Restez fidèles à Beurre FM, hein. Vous pouvez réécouter nos programmes sur les podcasts www.beurrefm.net.